Bonjour et bienvenue à Refaire le monde en 20 minutes, je m'appelle Nikki. Dans cet épisode, moi et Nathan, nous avons une conversation encore plus aléatoire que d'habitude, qui est partie un peu dans toutes les directions. On discute des médias, on discute de YouTube et on finit sur quelques petites perles de Cicéron. J'espère que cette conversation va vous plaire. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner sur Apple Podcasts ou sur Google Podcasts ou sur Spotify et de partager tout ça avec vos amis. Et maintenant, place à la conversation.
Trembler la table et le café. En regardant c'est les chaînes YouTube avec le plus d'abonnés, donc j'ai vu que T-Series c'est un label de musique indienne, et après j'ai vu PewDiePie et je me suis dit ok, bon bah j'ai jamais vraiment entendu parler.
T'as jamais entendu parler de PewDiePie?
Mais pas vraiment en fait, l'écriture comme ça, PewDiePie, ça me disait vaguement quelque chose. Mais je crois la tête du gars, j'ai dû le voir une ou deux fois, je suis allé voir sa chaîne. C'est pourri ce qu'il fait en fait.
Bah c'est... Ça, c'est pourri pour nous, hein, mais il y a une audience derrière ça.
Bah il y a une audience de malade, mais je me dis, enfin...
C'est des jeunes, en général, c'est des...
Ouais, c'est des jeunes. Mais franchement, ce qu'il fait, n'importe qui pourrait le faire, quoi.
Ouais, mais c'est un truc de personnalisé, c'est pas un truc de, ouais. De contenu.
Ouais.
En fait, c'est comme... C'est comme n'importe quel... C'est comme la télé-réalité... Pas la télé-réalité, mais la télé de jour, tu vois. Daytime TV.
D'accord.
Le contenu, on s'en fiche un peu, c'est la personnalité derrière. Donc, ils le vendent ça sur la personnalité. C'est pareil avec les youtubeurs. Hein.
Donc, en gros, c'est le Jean-Pierre Pernaut de...
c'est pas exactement, mais...
de la youtubeuse.
Mais c'est la même chose, c'est que c'est avec YouTube, tu peux faire... Le contenu en lui-même, il est pas nécessairement super intéressant, mais c'est la manière dont c'est apporté, c'est la personnalité, c'est peut-être une niche, tu vois.
Non, mais c'est, tu vois, ça je le comprends. Enfin, il y a une ou deux chaînes de basket que j'ai suivies pendant un temps. Il y en a un, bon, il a un vocabulaire de pompier, mais en gros, il se place devant un écran vert et puis il met le match de basket en toile de fond. Et toute sa chaîne, c'est lui en train de réagir au match de basket, en fait. Donc, c'est une chaîne de React. Mais il est super divertissant, en fait. Bon, j'ai fini par arrêter de le regarder parce qu'il est quand même saoulant. Son analyse sur le basket est loin d'être pertinente. Elle est presque sans aucune utilité. Mais sa personnalité fait que sa chaîne a explosé. Ouais, il a beaucoup de vues. Je trouve ça trop bizarre. Bah, non. En fait, ce que je trouve le plus bizarre... c'est que la personnalité de PewDiePie ne me semble pas être propice à avoir autant d'influence que ça. Il est cool, il est sympa, il parle bien, il est marrant dans un sens, mais pas à un niveau plus au point d'être le YouTuber le plus vu du monde, tu vois.
Bah,
pour moi.
Nathan.
Je sais, j'ai 32 ans.
T'as 32 ans.
Ça pique.
Ce que j'ai réalisé, moi, en étant 24 ans, et je suis pas aussi loin que de l'adolescence que ça, mais qu'au final, moi, je comprends pas du tout la culture de jeunes aujourd'hui. Hein.
Ouais.
Alors que moi, ça fait pas trop longtemps que j'en sors. Mais TikTok, tout ça, moi, je comprends pas. T'as entendu parler de TikTok?
Ouais, j'ai entendu parler de TikTok, ça, je trouve ça drôle, tu vois, globalement. Franchement, il y a plein de trucs sur TikTok que je trouve super marrant. J'ai pas téléchargé l'appli, je vais jamais regarder TikTok. Mais oui, je vois ce que c'est, et puis je trouve ça vachement drôle, plein de contenus qui sont dessus. Enfin, ça remplace un petit peu Vine, en fait, mais déjà, Vine, je trouvais ça génial.
Ouais, c'était bien.
Bah ouais, attends, moi, j'ai passé des moments, tu sais, les jours où j'ai vraiment envie de rien faire. je regardais, tu sais, il y a une sorte de compilation de genre 15 minutes de Vine, donc t'as 15 minutes de trucs de 6 secondes, mais c'est super drôle. Enfin, y en a au moins 1 sur 6 qui sont drôles, ça veut dire que tu rigoles au moins une fois par minute, quoi.
Bah ouais, c'est tellement court que tu peux juste faire n'importe quoi. Et donc aujourd'hui, si t'as envie de rien faire, tu fais quoi? YouTube?
Bah ouais. En gros, il y a moins de jours où ça m'arrive, mais bah, typiquement, Rebecca et les enfants sont partis en Angleterre. J'ai eu une journée lundi où je me suis dit, oh là là, je vais vraiment pas bien. J'ai eu un truc lundi soir où il y a un truc qui m'est tombé dessus, je sais pas ce que c'était. Genre limite déprime quoi, pendant une soirée. Limite, j'avais l'impression que j'étais en burn-out. Le lendemain, je me suis réveillé, c'était pas encore parti. Je me suis dit, là, je vais passer une semaine tranquille ou quoi. Je travaille, mais seulement les trucs sur lesquels j'ai envie de travailler. Et seulement au rythme où j'ai envie de travailler, je me fixe aucun objectif. Et donc là, hier soir, après être rentré Notre groupe de maison, notre braise, bah, j'ai regardé les Slow Mo Guys. Et c'est trop bien.
Ouais.
Ouais. Eux, je les trouve super. Bon, pareil, mais tu vois, au niveau personnalité, ça m'a pris du temps vraiment à accrocher avec eux. Mais leur contenu, par contre, est tellement bon que je le regardais quand même. Et maintenant, j'aime trop leur personnalité aussi. En fait.
Ouais.
Donc là ça joue dans le sens inverse. Pareil pour Dude Perfect.
De quoi ?
Dude Perfect.
Je connais pas ça.
C'est 5 Américains qui font genre des trick shots de basket, de frisbee, d'accord. De golf. Et au niveau personnalité, j'accroche pas du tout. Ils sont très, très, très texans. No offense si vous êtes du Texas. Mais ils ont juste une culture qui est loin d'être la mienne. Mais en fait, Zachary aime tellement Dude Perfect que j'ai fini par regarder avec lui de temps en temps quand il me demande. Parce que je préfère ça aux vieux dessins animés qu'ils mettent sur YouTube qui sont super pourris. J'ai fini maintenant par plus ou moins bien aimer les gars aussi.
Ouais.
Alors que How Ridiculous, eux, c'est à la fois les trick shots qu'ils faisaient
et
les personnalités où j'ai accroché, boum, tout de suite. Tu vois, ces trois-là, les trois Australiens de How Ridiculous, ça c'est moi, ça. Ça, c'est avec eux que je connecte. Pour moi, c'est eux qui devraient être les plus regardés de tout YouTube. Parce que niveau personnalité, bah, c'est eux qui sont meilleurs, bien mieux que PewDiePie, pour moi.
Ce qui est intéressant avec PewDiePie, c'est qu'il a commencé avec... il a quand même un côté gamer, et le gaming sur YouTube, il a commencé avec une niche, et puis il s'est généralisé, en fait. Et du coup, si tu commences comme ça, c'est incroyable, parce que t'as toute la communauté gaming derrière toi qui est énormissime, quoi. C'est juste...
Je me rendais pas compte qu'il avait commencé qu'avec du gaming. Enfin, je voyais que c'était un geek avec beaucoup de références gamer dans son...
Il me semble. Après, moi, je le regarde pas, du coup, je...
Bah, de ce que j'ai vite fait vu ce matin, ça semble être plutôt ça. Et je crois que, enfin, un petit peu, la notoriété de How Ridiculous, c'est comme ça que ça a grandi aussi. Leur contenu aujourd'hui est moins bon que ce que c'était à l'époque.
D'accord.
Mais moi, j'ai accroché avec leur personnalité maintenant. Mm-hmm. Donc, je regarde toutes leurs vidéos et ils me font rire, ils me font délirer. Mais au début, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils faisaient des tirs de basket impossibles et tout ça. Et puis ensuite, ils ont commencé à filmer le processus pour mettre le panier de basket impossible. Ça, pour moi, c'était au niveau contenu, c'est là où ils étaient à leur meilleur.
Quand ils expliquaient les shots.
Ouais, c'est ça. Et surtout quand ils faisaient des shots. Et maintenant... Ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent toutes sortes de trucs, ils les emmènent à genre 45 mètres de hauteur, ils les lâchent de 45 mètres de hauteur et puis ils filment pour voir qu'est-ce que ça va faire. C'est drôle, c'est cool, mais c'est largement moins bien en fait.
Ouais.
Mais leur personnalité est tellement chouette que j'ai accroché et ils sont en train d'exploser. Hein.
Ouais, faudrait que j'aille regarder. Moi, ce qui est intéressant, c'est qu'en grandissant, en devenant plus vieux, je regarde de moins en moins de youtubeurs personnalités et plus en plus des youtube genre corporate, hein, des entreprises qui font des chaînes YouTube, qui font des super chaînes YouTube. Hein. Je t'ai montré Vox qui font des documentaires oufissimes, des vidéos docu, des choses comme ça. Et je trouve que c'est un contenu tellement, tellement intéressant en fait, tellement fort. Mais si t'es politiquement pas d'accord avec eux, voilà, ça c'est une autre question, mais
au niveau qualité
c'est oufissime.
De contenu, enfin, je veux dire, ouais, il y aura des éléments, des accents sur lesquels on va pas être d'accord, mais grosso modo c'est des infos quand même.
Ouais, c'est ça, et c'est super bien fait, c'est super bien expliqué, et c'est quelque chose qui me frustre beaucoup en France, qu'on n'a pas, c'est ce côté d'informations, d'infos qui sont vraiment vraiment... qui donne beaucoup d'informations. Je trouve qu'en France, on est beaucoup trop dans le... Il y a des articles et des vidéos, mais qui sont genre... voilà ce qu'on pense sur ça, sans nécessairement expliquer qu'est-ce que c'est que ça. Et voilà tout ce qui vient avant, tout le contexte pour une actualité. Je trouve qu'il n'y a personne en France qui le fait vraiment, vraiment bien, alors que Vox avec un V, aux États-Unis, fait vraiment le côté de contextualiser toutes les informations pour te donner vraiment l'histoire de ce qui s'est passé, en fait. Et pourquoi on est arrivé à ce point-là ? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il y a ce truc qui s'est passé ? Je trouve ça vraiment bien. Et par exemple, ils font une série là, en ce moment qui s'appelle Borders. Il faut absolument que tout le monde aille le regarder parce qu'ils font vraiment... ils vont dans un pays où il y a des disputes territoriaux ou des disputes sur les frontières et ils expliquent pourquoi on en est là. Qu'est-ce qui s'est passé pendant les 100 dernières années, en fait, pour arriver au point où, Inde et Pakistan ont ce problème-là avec les frontières.
Ça, c'est ça doit être super intéressant, il faut que j'aille regarder.
Super intéressant.
Surtout que je suis très géographie et puis je suis de plus en plus histoire, surtout histoire contemporaine.
Ils ont une autre série comme ça qui s'appelle Vox Atlas, qui le fait sur une carte, en fait. Du coup, c'est juste une carte, super bien animée, mais ils expliquent tout ce qui se passe sur la carte. Et ça, c'est juste, ça te donne une telle connaissance de ce qui se passe dans le monde, en fait, et tu dis, je suis beaucoup plus intelligent après avoir regardé cette vidéo, quoi.
Pas plus intelligent.
Plus informé.
Plus informé. Plus cultivé. Je suis d'accord avec toi, je trouve qu'en France, on n'a pas beaucoup de trucs comme ça, et je trouve ça très intéressant que le pays des Lumières, le pays qui a eu peut-être les philosophes avec l'Allemagne les plus influents dans les 300 dernières années, et aujourd'hui dans un vide, je trouve, au niveau intellectuel, au niveau philosophique, et à tellement, tellement de niveaux. Il y a presque, enfin, moi j'ai l'impression presque qu'il y a une dégénérescence de notre société. Et bon, moi j'ai une théorie là-dessus qui est que c'est le fait d'avoir retiré la pensée concernant Dieu, pour ne pas utiliser le mot théologie, la pensée concernant Dieu du discours public.
D'accord.
Et qu'on soit athée ou chrétien ou musulman ou quoi que ce soit, le fait depuis un jeune âge d'être confronté à ces questions de métaphysique, ces questions existentielles, etc., etc., ces questions sur le sens de la vie, ces questions sur la transcendance, sur l'ultime, sur et même le conceptuel, conduit une société à être plus intelligente, globalement. Conduit une société à avoir plus de réflexion profonde.
Ouais.
Et donc, même dans une société, je pense que beaucoup de gens qui font Vox ne sont pas du tout chrétiens, pas forcément chrétiens, ils se revendiqueraient même athées. Ils sont dans un pays où, malgré le fait qu'on ne pense pas aux États-Unis comme étant le pays de la culture, franchement. Même nous, en France, on les traite un petit peu d'incultes, quoi. C'est bien sûr une caricature, parce qu'il y a en fait beaucoup, beaucoup plus de bons philosophes américains que de bons philosophes français. Il y a beaucoup, beaucoup plus de bons académiciens américains que de bons académiciens français. Les facs américaines sont maintenant meilleures que les facs françaises. Les prix Nobel, il y en a beaucoup plus maintenant qui viennent des États-Unis que de prix Nobel qui viennent de la France, et sur toutes sortes de sujets différents. Et on est en train d'être à la ramasse, parce que ça fait 100 ans qu'on a enlevé Dieu du discours public. Peu importe ce qu'on dit sur lui, et je crois qu'avoir avoir en plus de ça une posture d'humilité, de fidélité envers Dieu, dans la société, ça conduit à encore plus, je pense, de profondeur de réflexion, mais ça conduit aussi à une éthique qui est plus solide et à un monde qui est plus stable. Mais même sans parler de ça, sans parler de est-ce qu'on est fidèle à Dieu ou est-ce qu'on l'est pas, est-ce qu'on est humble envers Dieu ou est-ce qu'on est orgueilleux envers Dieu, est-ce qu'on croit en Dieu ou est-ce qu'on ne croit pas en Dieu, le fait d'avoir ce genre de thème dans le discours public conduit à avoir une société qui est plus réfléchie, plus intelligente, philosophiquement plus riche. Et cette plus grande richesse philosophique va conduire à avoir aussi un discours intellectuel qui est plus riche, qui est plus fondé. Donc ça ne m'étonne pas du tout que maintenant des médias américains, des médias anglais et beaucoup d'autres pays produisent des choses qui sont plus profondes et que nous en France on est vraiment en train de gratter la surface.
Ah ouais.
Parce qu'au niveau philosophique, on gratte la surface, en fait.
Et c'est pas juste au niveau philosophique, mais c'est aussi une terme, j'ai l'impression, et peut-être que j'ai tort, parce que c'est quelque chose que je recherche, je regarde, du coup, normalement, je devrais savoir, mais j'ai pas l'impression qu'on ait vraiment une culture du journalisme d'investigation en France, dans le sens où vraiment, il y en a certains qui le font, il y a quelques publications qui le font, mais j'ai l'impression que aux États-Unis et en Angleterre aussi, t'as vraiment le côté d'investigation journalistique à tous les niveaux, pas seulement au niveau national, où d'accord, t'as peut-être le Canard Enchaîné qui fait ses recherches, etc., oui. Mais et qu'est-ce qui se passe au niveau local j'ai l'impression qu'aux États-Unis et en Angleterre, il y a vraiment des journalistes sérieux à tous les niveaux, au niveau local, au niveau régional et au niveau national, dans toutes les sphères, qui... juste un exemple, une autre une publication que j'aime beaucoup, c'est The Verge. C'est un site internet qui regarde tout ce qui est technologie et culture technologique. Et c'est de la technologie, c'est pas super important si tu compares ça genre à la politique et aux actualités d'aujourd'hui, philosophie, etc. C'est de la technologie, c'est pas non plus quelque chose, c'est pas le truc le plus important. Par contre, eux, ils le prennent super au sérieux et ils font du journalisme super sérieux sur qu'est-ce que la technologie aujourd'hui. Pourquoi est-ce que c'est important que Apple ils font ces choses-là, Google font ces choses-là? Pourquoi est-ce que c'est important que nous on prenne ça au sérieux, que nous on regarde tout ce qu'ils font, que nous on garde ces entreprises, qu'on vérifie ce qu'ils font, qu'on les observe? Pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? Et ils le prennent super au sérieux et ça veut dire que il y a une vraie culture de savoir ce qui se passe dans cette industrie. Et quand il y a des choses super importantes, genre Apple et Google qui arrivent au congrès US pour se défendre par rapport à quoi que ce soit qu'ils ont fait, on connaît plein d'informations sur eux parce qu'il y a des journalistes qui font du vrai travail sérieux dans ce domaine-là. Mmh. Et je pense qu'en France, on a peut-être du journalisme sérieux qui se passe au niveau national politiquement, et encore peut-être, ouais. Et encore pas assez. Mais par contre, dans le reste, il n'y a rien. Il n'y a rien local, il n'y a rien dans la technologie, il n'y a rien dans ce qui est dans les autres domaines de la vie. Et donc moi, je pense que ça, c'est un super gros problème de manque de vrai journalisme sérieux. Et ça peut-être rentre dans ton côté de on ne veut pas réfléchir à des choses très importantes. On ne veut pas...
Et c'est peut-être même pas un truc actif de « on ne veut pas », mais il n'y a pas ce réflexe, cette sorte de culture ambiante qui est là, qui est propice à ce genre de choses. Et ça va plus loin que ça. Et je pense que c'est pas seulement en France, dans d'autres pays aussi. Fut un temps où à l'école, tout le monde qui passait par l'école apprenait la logique. Et ça veut dire quels étaient les procédés d'une logique qui est saine et quelles étaient les logiques fallacieuses. Et ils pouvaient dire, voilà, ad hominem, tout le monde savait ce que c'était qu'un ad hominem, tout le monde savait ce que c'était qu'un raisonnement par l'absurde, tout le monde pouvait te sortir des trucs comme ça. Aujourd'hui, t'es là, mais personne n'a presque même entendu parler de ça, tu vois. T'as peut-être entendu une fois le mot ad hominem, mais tu demandes à 99 personnes sur 100 dans la rue, les gens vont te dire, aucune idée ce que c'est qu'un un argument ad hominem, quoi.
Tu peux m'expliquer ce que c'est un argument ad hominem?
Ouais, ad hominem, ça veut dire que tu attaques la personne plutôt que l'argument.
D'accord, oui.
Donc tu peux avoir Hitler qui dit que 2 plus 2 égale 4 et tu vas dire c'est faux parce que c'est Hitler qui le dit.
Ok.
Tu vois, et ça, c'est un argument ad hominem. C'est faux de dire que Hitler a tort parce qu'il est Hitler. Il faut regarder l'argument et pas la personne.
D'accord.
Et après, t'as un autre truc qui est proche de ça, c'est l'argument de l'autorité. Donc tu vas dire parce que cette personne en sait plus sur ce sujet, alors il a raison sur tout ce qui a trait à ce sujet par rapport à une personne qui en sait moins. Et c'est plus proche d'une logique qui est vraie, parce que le plus souvent on doit faire confiance aux autorités sur un sujet plus qu'aux personnes qui arrivent lambda qui arrivent et qui n'y connaissent rien. Et aujourd'hui, on a peut-être besoin de redécouvrir une humilité par rapport aux gens qui font autorité sur des sujets, plutôt que de tout le monde de dire « Ouais, mais attends, moi j'ai regardé Wikipédia, donc moi aussi je sais. » Non, tu ne sais pas parce que tu as regardé Wikipédia. Quelqu'un a comparé une fois Wikipédia à ton oncle très intéressant qui a une opinion sur tout. Beaucoup de choses qu'il va dire sont vraies, beaucoup de choses qu'il va dire sont largement exagérées et t'as aucun moyen vraiment de le savoir parce qu'il ne connaît pas et il ne cite pas ses sources, quoi.
C'est la démocratisation de l'information, je pense, est une très 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 bonne chose. Mais assez c'est mauvais point, et je pense que ça en est une, c'est que maintenant on sait tout sur tout.
Soi-disant.
On pense savoir tout sur tout. Parce qu'on a accès à toutes sortes d'informations. Et ouais.
Donc on ne nous enseigne plus la logique, on ne nous enseigne plus la rhétorique, alors que, pareil, à l'école, traditionnellement, dans le secondaire, on apprenait la rhétorique. Et donc on apprenait à bien s'exprimer, à utiliser les bons connecteurs logiques pour bien articuler ces différentes pensées entre nous. Et c'est juste plus présent vraiment maintenant, c'est un peu plus présent, en tout cas dans les systèmes traditionnels en Angleterre ou aux États-Unis. Dans les écoles publiques, même en Angleterre ou aux States, ça se perd aussi. Et ouais, moi je trouve ça vachement inquiétant pour le niveau de réflexion dans nos pays. Et donc, après, ça a un impact sur le journalisme. Ça a un impact sur ceci et sur cela, et sur ceci et sur cela. Et juste pour dire un autre truc aussi, il y a un sujet encore sur lequel la France est considérée comme étant leader mondial. Ah, peut-être la mode, tu pourrais dire, l'Italie, ça pourrait aussi se défendre, les États-Unis sont vraiment en train de monter là-dessus aussi, mais c'est les mathématiques. Et ça, c'est vachement intéressant parce que les mathématiques, ça ne demande pas de réflexion philosophique. C'est de la réflexion abstraite, c'est même de la logique extrême, c'est la science la plus pure. Et c'est intéressant que la France est encore leader mondial au niveau mathématique. Donc il y a une fois, j'étais dans un bar et il y a un gars à côté de moi qui commence à me parler. Et il s'avère que c'était un businessman américain qui était venu en France, qui avait racheté une société. Et c'est une des toutes dernières licornes françaises d'ailleurs. Elle a atteint le milliard d'euros de chiffre d'affaires, une licorne.
Je sais pas.
Bon, en tout cas, voilà, c'est une boîte qui a très très bien marché, une startup qui a très très bien marché. Et lui, il était là, il a racheté cette boîte et il l'a gardée en France. Et je lui ai dit, mais pourquoi est-ce que vous êtes resté en France ? Alors que, en tant qu'entrepreneur, vous seriez bien mieux loti dans d'autres pays. Et en fait, c'était une boîte qui créait des objets connectés. Donc c'est connected objects en gros. Et il m'a dit, en fait, on est en France parce que les meilleurs mathématiciens du monde sont français. Et c'est lui qui le disait d'un point de vue strictement business. Je veux rester ici parce que les meilleurs mathématiciens sont ici. Et il m'a dit, c'est plus ou moins le dernier truc sur lequel les Français sont les leaders au niveau mondial maintenant. Et si ma boîte faisait quoi que ce soit d'autre qu'un marché dans lequel j'avais besoin de mathématiciens excellents, j'irais autre part qu'en France.
C'est intéressant parce que dans un monde, la France est aussi leader au niveau codage, mais purement dans le codage, dans ce qui est codage informatique, programme, jeux vidéo. Et donc, tu as tous les entreprises américaines avec les idées, avec la créativité derrière, qui viennent en France chercher leurs codeurs, parce que les Français, ils sont bien dans la logique, dans les chiffres, dans tout ça, c'est l'argent. C'est intéressant parce que je suis en train de lire un bouquin sur l'histoire romaine. Ça m'a pris comme ça. Et c'est génial. Et c'est super intéressant à quel point, dans l'histoire romaine, ils mettaient l'accent et l'importance, la valeur en tant que personne, c'était ta rhétorique. Si tu avais une bonne rhétorique, c'était que tu étais la meilleure personne. Et du coup, les gens qui étaient votés pour être les consuls, donc les gens qui lidaient la société, c'était les gens avec la meilleure rhétorique. Et c'est intéressant parce que j'étais en train de lire ce bouquin et j'étais en train de regarder leur société qu'ils avaient construit, et il y avait plein de choses qui ne vont pas avec leur société, bien sûr, parce qu'ils n'avaient pas Dieu et plein de choses, mais par contre, il y avait il y a plein de choses dans la société romaine que eux ils avaient calé, ils avaient bien réussi à faire, et que nous en France on est incapable de faire. Genre toute la conversation autour de la citoyenneté romaine et la logique derrière comment est-ce qu'on étend la citoyenneté romaine à tout le monde qui fait partie de l'Empire romain, en fait, qu'il soit romain à la base ou pas, et tout ça, c'est genre, c'est tellement, il y a une vraie logique derrière et une vraie un vrai développement qui vient du fait qu'ils mettent la rhétorique et la logique à un point, genre le summum de ce que tu peux être en tant qu'humain, c'est est-ce que tu peux bien parler. Et ça m'a super surpris à quel point la société romaine était super développée quand même. J'ai pas l'impression que en 2000 ans depuis la société romaine, on a beaucoup avancé en fait.
Je crois que on pourrait voir ça comme un truc superficiel, la rhétorique, mais être un... On a parlé de ça quand on parlait d'être un orateur public. Un bon orateur, c'est d'abord quelqu'un qui a quelque chose à dire. Et Jésus, il dit, c'est des profondeurs du cœur que la bouche... C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc quelqu'un qui non seulement a un discours qui a du contenu, ça veut dire que son cœur a quelque chose de profond, mais si en plus il a l'aptitude à, dans sa tête, clarifier cette profondeur... Ça veut dire qu'il a de la logique, donc il a de la profondeur, et puis il a de la logique, et puis ensuite de savoir le dire aux gens, ça veut dire qu'il a en plus le packaging qui permet à ce que les autres comprennent cette profondeur et à ce que les autres soient persuadés par ça. Donc on disait, il y avait deux grands orateurs dans le Sénat romain à un moment donné, c'était...
Cicéron.
Cicéron, c'est ça. Cicéron. Ouais, donc il y avait deux grands orateurs dans le Sénat romain, il y avait Cicéron et il y avait César. Et Cicéron, il donnait envie aux gens de l'écouter, mais on disait sur César, c'est qu'il donnait envie aux gens de marcher.
Ouais.
Il donnait envie aux gens de suivre. Donc Cicéron, il va faire un super beau discours, mais quand venait le moment de l'action, en fait, il s'avérait que le meilleur orateur était quand même César plus que Cicéron, parce qu'il était moins fleuri, mais il conduisait les gens...
Ouais.
À, ouais, c'était un passionné, il conduisait les gens à l'action. Pas forcément une action que nous, on trouverait, correcte ou défendable, n'est-ce pas, Gergovie pauvre Vercingétorix. Mais bon, pour les Romains à l'époque, c'était forcément ce qu'il y avait de meilleur. Enfin, moi, ça ne m'étonne pas du tout, en fait, que ce soit le cas, et je trouve que c'est presque un signe d'une société qui a compris beaucoup de choses, finalement. C'est pas superficiel. Alors que... Si c'était l'apparence, si c'était quelqu'un de beau, quelqu'un de grand, quelqu'un de fort, ça c'est superficiel.
Mm-hmm.
Mais la rhétorique, c'est pas de la superficialité en fait.
Mm-hmm. Ouais.
Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle.
Et c'est intéressant parce que, juste dernier point avant qu'on finisse, les Romains faisaient leur statut des gens de leur grand politique. Ils faisaient des statuts à un vieil âge. Parce qu'ils voulaient montrer les personnes comme étant réels, comme des vraies personnes. Donc si tu regardes les statues romaines, ils ont des rides, etc. Alors que les Grecs faisaient des statues de jeunes hommes, parce qu'eux, ils valorisaient beaucoup la beauté, la jeunesse et l'apparence. Et du coup, si tu regardes, c'est un petit quelque chose que j'ai lu dans le bouquin. Merci d'avoir écouté ce podcast, j'espère que vous avez apprécié la discussion qui est partie un peu dans tous les sens. Vous pouvez retrouver plus d'épisodes de Refaire le monde en 20 minutes dans votre appli de podcast où vous avez trouvé cet épisode en fait, et sur Apple Podcast. Si vous aimez, n'hésitez pas à mettre un like, mais non, il n'y a pas de like, mais mettez un petit commentaire avec 5 étoiles et partagez cet épisode avec vos amis pour qu'on puisse se faire connaître. Et n'hésitez surtout pas aussi à nous envoyer un petit mail à Refaire le monde en 20, donc refaire le monde en 20@gmail.com si vous voulez nous proposer d'autres conversations. Et vous pouvez me trouver sur Twitter et sur Instagram, et vous pouvez trouver Nathan à facebook.com/NathanLambert. Et j'espère vous retrouver la semaine prochaine ici pour un nouvel épisode. Ciao.